Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Lusitu Kabambi.
Cas de tuberculose enregistré à la prison centrale de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental depuis le début de ce mois. Le ministre provincial de la Santé souhaite que ces malades soient isolés des autres pour arrêter la propagation de la tuberculose dans cette prison. Hier dimanche, plus de 10 corps ont été récupérés dans 3 villages à la limite entre les groupements de Tongo et Bambo au Nord Kivu. Ce sont des éventuelles victimes du M23 lors d'une incursion de ce mouvement dans ces villages du territoire de Rutshuru. Ruxandra Bordescu est l'invitée de ce journal. La spécialiste principale en gouvernance à la Banque mondiale revient sur l'accompagnement par cette institution de la province du Maniema dans la mise en œuvre du projet dénommé Encore du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au Kasaï oriental, 6 cas de tuberculose ont été détectés à la prison centrale de Mbuji-Mayi à l'issue du dépistage organisé par le gouvernement provincial au début de ce mois de mai. Le ministre provincial de la Santé souhaite que ces malades soient isolés pour arrêter la propagation de la tuberculose dans ce milieu carcéral. Depuis Mbuji-Mayi, Esther Ndalafina.
D'après le ministre provincial de la Santé, le dépistage a été effectué avec le concours de la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose. Il ressort de cette opération que sur près de 500 détenus du centre pénitentiaire de Mbuji-Mayi, 6 ont été déclarés positifs à la tuberculose. Le ministre propose que ces détenus malades soient isolés des autres pour éviter la propagation de cette maladie à la prison centrale. Contactez la directrice de la maison carcérale affirme que les malades sont déjà pris en charge. Elle signale par ailleurs que d'autres malades gardés à l'hôpital en isolement avaient pris le large, abandonnant les soins ainsi que leurs effets. Signalons que c'est la troisième fois dans un espace de 8 ans que la prison centrale de Mbuji-Mayi enregistre des cas de tuberculose. Esther Ndalafina, Mbuji-Mayi, Radio Okapi.
Toujours en santé, l'organisation Fistula Programme a sensibilisé le week-end dernier une 30aine de femmes guéries de la fistule obstétricale venues de la ville de Butembo et d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Selon Dr. Gabriel Mate Mouhini, médecin traitant à Fistula Hospital de Butembo, il s'agissait d'impliquer ces femmes dans la construction d'un avenir sans fistule au sein de la communauté. Il a été joint au téléphone par André Kitenge.
Nous avons réfléchi sur comment éliminer cette fistule obstétricale pour faire éviter aux autres femmes le désastre qu'elles font subir au quotidien des femmes vivant avec cette fistule obstétricale. Nous avons échangé comment on peut parvenir à construire un avenir sans fistule obstétricale. Pour que cette fistule soit éliminée, c'est à travers deux principales voies. La première voie, c'est soigner ou réparer toutes ces femmes qui survivent encore avec des fistules. Donc, nous devons identifier ces femmes-là dans la communauté. Nous devons les convaincre de venir se faire soigner pour qu'elles puissent retrouver leur dignité et retrouver leur sourire. Une autre voie, c'est maintenant la prévention. Pour la prévention, toutes les différentes couches de la communauté sont impliquées. Au niveau de la communauté, nous avons dit que nous devons décourager les grossesses précoces. Puisque une femme qui accouche avant 18 ans, elle court plusieurs dangers, notamment celui d'avoir une fistule obstétricale, puisqu'elle aura une grossesse à haut risque.
Au Nord Kivu, une dizaine de corps des personnes tuées au cours d'une incursion du M23 ont été récupérés hier dimanche dans 3 villages à la limite entre les groupements de Tongo et Bambo. Les faits se passent dans les villages Kirumba, Rukano et Kagambi, dans la chefferie de Buit au territoire de Rutshuru. Des sources concordantes locales rapportent également des affrontements qui ont repris ce lundi matin entre le M23 et les Wazalendo dans le parc des Virunga, côté Kibungu et Runzenze dans le groupement de Bambo. Le point avec vous, Rachel Kiesse.
D'après nos sources dans la région, les rebelles du M23 qui poursuivent des opérations de traque contre les Wazalendo et les FDLR dans le Buito sont passés hier dimanche dans ces villages après des détonations d'armes lourdes. Après leur passage, au moins 4 corps ont été ramassés à Kirumba, 2 à Rukano et 3 à Kagando. Nos sources rapportent également 5 blessés, toujours des civils. Les victimes ont été tuées soit dans leur maison, soit dans la cour, précise-t-elle. Les rebelles du M23 venus nombreux dans la zone procéderaient à des fouilles partout où seraient passés les FDLR et tous les cultivateurs qui exercent dans la contrée, poursuivent nos sources. En outre, des détonations d'armes lourdes ont été entendues ce lundi dans la matinée dans le parc côté Muliki, en groupement Mutanda. Cette situation continue à pousser les habitants à se déplacer pour aller s'entasser à Bambo, agglomération déjà saturée, font savoir nos sources.
Toujours au Nord Kivu, en plus bref, au moins 11 corps sans vie, identifiés comme étant des civils, ont été retrouvés dans la matinée de ce lundi dans le village de Kiringi, localité de Mweso, groupement de Bachali Mokoto, territoire de Masisi. Selon les sources des notabilités locales, ces corps en putréfaction seraient des victimes collatérales d'un affrontement le vendredi 23 mai entre le M23 et les Wazalendo dans ce village. Quelques maisons d'habitation avaient aussi été incendiées lors de ces attaques, rappelant que durant les deux dernières semaines, plusieurs accrochages opposant le M23 au groupe Wazalendo ont été rapportés dans cette partie de Masisi, dans le groupement de Bukombo, chefferie voisine de Bwito, territoire de Rutshuru, faisant des victimes parmi les civils. Dans la province du Tanganyika, une centaine de miliciens du groupe Fimbo na Fimbo ont déposé les armes auprès des autorités hier dimanche. Le gouverneur du Tanganyika a reçu des mains des responsables de ce groupe, des armes à feu, des munitions ainsi que des flèches. La cérémonie s'est déroulée au village Kasama, à 15 km au sud-est de la ville de Kalemi. Ces ex-miliciens acceptent d'adhérer au programme de désarmement volontaire. Paul Amunanga.
Parmi ces armes, il y a 3 AK-47, une mitrailleuse, un fusil de chasse, des munitions et un lot de flèches. Signalons que c'est après plusieurs années de violence que ces ex-miliciens, sous la direction de leur leader Bitonto, ont accepté de déposer finalement les armes. Le gouverneur du Tanganyika s'est dit satisfait de cet acte de reddition et réitère son soutien à ces ex-combattants dans leur processus de réinsertion. Christian Kitungwa appelle les uns à l'adhésion au programme de la réserve armée de la défense et les autres à la réintégration communautaire et sociale. Le gouvernement provincial leur a remis un don de vivres et de non-vivres. Pour rappel, le groupe armé Fimbo na Fimbo a donné son accord en avril dernier pour adhérer au programme de désarmement volontaire. À cette occasion, le leader de cette milice, Michel Bitonto, avait rencontré les autorités de la province du Tanganyika dans le territoire de Kalemi. Signalons que ces ex-miliciens ont commis des atrocités dans plusieurs villages et localités du territoire de Kalemi, tels que Mulangé, Koki, Mwaka, Kambilo et tant d'autres. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les ambassadeurs africains accrédités en RDC ont fait preuve de générosité samedi dernier en faveur des victimes des inondations à Kinshasa. Avec à la tête leur doyen Rachid Agassim, ces diplomates ont apporté aux victimes des vivres, notamment des familles installées dans le site du stade Tata Raphaël. Blaise Nongala Mayanda.
Ces diplomates africains posent ces gestes de solidarité en marge de la Journée mondiale de l'Afrique célébrée le 25 mai de chaque année. Une initiative humanitaire à la fois symbolique et concrète qui s'est tenue dans l'enceinte du stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamu. Durant des heures, ils se sont mobilisés aux côtés des autorités congolaises pour distribuer des vivres à ces familles sinistrées, mettant en avant l'implication de ses collègues ambassadeurs. Le Marocain Rachid Gassim a salué les contributions volontaires ayant permis d'acheter une quantité considérable de vivres destinés à alléger les souffrances de ces personnes. À cette occasion, il a souligné également le soutien actif de nombreux partenaires issus des secteurs privés, parmi lesquels la Chambre de commerce Congo-Maroc, la Chambre de commerce d'industrie et des services de la RDC, la société Sokin, Robanco et autres. Pour sa part, la ministre congolaise des Affaires sociales et Action humanitaire salue cet élan de générosité manifesté par les représentations africaines à Kinshasa.
Le gouvernement central a débloqué tous les fonds nécessaires pour la réhabilitation des routes de Kinshasa. Pour se rassurer du lancement effectif des travaux, le ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde Libotai a inspecté ce week-end les travaux routiers et d'autres infrastructures dans la capitale. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux Publics, du gouverneur de Kinshasa et des responsables de l'OVD, Doudou Fouamba a parcouru plusieurs sites de l'est à l'ouest de la ville. Michel Kifindangwe.
De l'avenue du tourisme en plein asphaltage, à l'érosion Mbala à Badiading où les travaux de stabilisation reprennent, en passant par la réhabilitation de la route Sebo Kimouenzagar, le ministre des Finances se rassure de l'utilisation effective de l'argent débloqué par le gouvernement pour la réfection de la voirie urbaine de Kinshasa. L'écurage des caniveaux a débuté sur l'avenue Université et des aménagements sont en cours sur la route Bypass pour fluidifier le trafic, constate Doudou Fouamba. Il a marché à pied entre des bonhommes et Mantankoumou à Tchangou pour vérifier personnellement la qualité et le rythme des travaux. Tout en saluant les avancées constatées, Doudou Fouamba souligne que plusieurs chantiers attendent encore d'être lancés. Il a insisté auprès du gouvernement provincial l'accélération des travaux en cours et lancé ceux des voies secondaires afin de désengorger la ville. Pour l'argentier national, les embouteillages et le manque d'infrastructures freinent le développement économique, réduisant les temps productifs des citoyens.
Au Kasaï central, la régie des eaux promet d'étendre son réseau de distribution d'eau avec d'autres projets à partir du mois d'août prochain. Son directeur général, qui est dans la suite de la première ministre en visite au Kasaï central, l'a dit le week-end à Kananga. D'après David Chilumba Mutombo, les fonds pour la construction d'une usine d'eau sont déjà disponibles et c'est le plus grand projet parmi tant d'autres pour permettre aux habitants du Kasaï central d'avoir accès à l'eau potable. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
La bonne nouvelle, c'est que le président de la République nous a donné le pouvoir d'aller chercher les financements. Aujourd'hui, nous avons des très grands projets que nous allons réaliser ici dans la province du Kasaï central à partir du mois d'août. C'est le plus grand projet de développement que vous n'avez jamais vu dans cette ville depuis des décennies. Voici ce que nous faisons. Une nouvelle usine d'eau sur la rivière Loulou à 85 000 m3, c'est-à-dire quoi? Deux fois plus grande que l'usine que vous avez à Kanyouk. Nous faisons une prise d'eau sur la rivière Loulou à près de 110 000 m3 jour. Nous construisons une centrale hydroélectrique dédiée à la régie des eaux pour qu'il y ait de l'eau 24 heures sur 24. Plus question de l'eau 3 heures par jour. Construisons 500 km de tuyaux, nouveaux tuyaux dans la ville de Kananga qui vont dans chaque commune. Un nouveau réservoir de 5000 m3 à Nganza, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Tchikaj, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Loukong, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Ndécha, un nouveau réservoir de 5000 m3 dans la commune de Kananga, un nouveau réservoir de 5000 m3 dans la commune de Katok. Ça n'a jamais été fait ici.
Actualité internationale.
À Gaza, au moins 52 personnes ont été tuées ce lundi 26 mai par des bombardements israéliens, selon la défense civile palestinienne. Parmi elles, 33 personnes sont mortes dans une école abritant des déplacés où l'armée israélienne a dit avoir visé des terroristes. Place à présent à l'invité du jour.
L'invité.
La Banque mondiale accepte d'accompagner la province du Maniema dans la mise en œuvre du projet dénommé encore du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, projet qui consiste à l'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC. Cette affirmation est de Madame Ruxandra Bourdescu, responsable spécialiste principale en gouvernance à la Banque mondiale lors de son séjour dans la province du Maniema. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Ruxandra Bourdescu, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
La Banque mondiale accepte d'accompagner la province du Maniema, c'est ça?
C'est vrai, nous sommes ici avec des bonnes nouvelles. Nous sommes dans le processus de faire les diagnostics et voir les besoins d'assistance technique, d'équipement en matière de gouvernance que nous pouvons appuyer sur le projet encore. La Banque mondiale a une portefeuille de presque 9 milliards de dollars en RDC. Le projet encore, c'est les projets dans le secteur de gouvernance, le secteur de réforme. Il appuie les réformes en matière de finances publiques, et spécialement l'augmentation de la collection de recettes. Et sous le projet encore, nous travaillons avec 4 provinces pour le moment. Et au mi-parcours, nous avons pris la décision d'inclure 3 provinces plus, Maniema, Équateur et Congo central.
À quand les débits effectifs du projet dans la province du Maniema?
Oui, alors comme je disais, nous sommes dans le processus de faire les diagnostics pour voir les faiblesses comme les points forts en matière de chaîne de la dépense, le processus budgétaire, collection des recettes, en matière de finances publiques. Discuter ces diagnostics avec Son Excellence, le gouverneur, le ministre de Finances, le ministre du Budget, les parties prenantes, accorder une feuille de route pour les prochaines étapes. Nous avons aussi les processus d'approbation interne à la Banque mondiale et nous sommes en cours de préparer la visite de notre directeur des opérations dans la Banque mondiale, Albert Zefak, qui a souligné qu'il faut vraiment accélérer ce processus et les réformes en gouvernance que nous venons de soutenir avec le projet.
Le portefeuille de la Banque mondiale pour cette année 2025 et d'environ 9 milliards de dollars, comme vous avez dit. Comment alors faire bénéficier la province du Maniema des fonds de la Banque mondiale à partir de 2026 pour financer des projets, des infrastructures, santé, éducation?
Nous sommes ici pour nous évoquer en matière de gouvernance, finances publiques. Nous n'avons pas décidé le monde spécifique sur le projet encore. Nous sommes en processus de faire la révision MICA parcours et discuter avec le gouvernement de RDC sur un possible financement additionnel. Alors, c'est tôt de parler des mots exacts, mais je voudrais souligner qu'avec une forte gestion de la finance publique, ça va aider à améliorer l'espace fiscal pour faire des investissements dans l'infrastructure et pour améliorer les services de base dans les secteur de santé, au secteur social, éducation. Alors ça, pour moi, va aider beaucoup à donner des outils aux autorités locales pour travailler sur tous les secteurs que vous avez mentionnés.
Alors, le directeur des opérations de la Banque mondiale va-t-il répondre positivement à l'invitation du gouverneur de la province du Maniema lui adresser?
Bon, je peux vous partager des très bonnes nouvelles. Hier soir, j'ai discuté avec lui. Il a accepté positivement cette invitation. Il est très content de venir ici prochainement et voir les réalités sur place de la province. Et il a souligné que c'est très important que nous faisons les réformes en façon urgente. Nous accélérons ce travail.
Comme c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous dites à la population du Maniema qui vous écoute?
Vous devez avoir du courage et soutenir l'engagement des autorités. La gouvernance, les réformes de finances publiques, c'est quelque chose de très technique, mais il y a un impact direct pour la population quand il y a la volonté politique. Avec transparence, avec de bonnes gestions pour améliorer la vie de chaque jour. Alors bon courage et comptez sur les autorités.
Madame Roussandra Bourserkou, merci.
Merci.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Alain Goy. Au micro, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, un journal coordonné et supervisé par Élisée Chikota. Merci à vous tous de nous avoir suivis.